Bonjour à tous, nous sommes le mardi 5 décembre, je suis Marion et je suis ravie de vous retrouver pour le mug. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous en êtes à la cinquième journée de votre calendrier de l'Avent qui va rythmer ce mois de décembre jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à Noël. Voyez, on est un petit peu d'humeur festive ce matin dans le mug, on a mis la déco, c'est sympa, j'espère que vous allez bien dans la chatroom. Je vais dire bonjour à ceux qui nous rejoignent. Salut Camillette, salut Dave Boy, salut Miaou Flora. Bonjour à Tim, vous allez bien? Bah écoute, ça va bien. J'ai toujours ce petit rhume persistant. Vous voyez, vous entendez peut-être, j'entends, je parle encore du nez, mais ça va bien, mis à part ce petit rhume persistant. Voilà. Voilà, ça me fait juste une voix un peu de canard, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas très grave. Pour vous, c'est peut-être plus désagréable. Salut Electrolica et un grand merci pour ton soutien. 17e mois d'abonnement. Merci à toi. Salut Unsui, salut Mport également et un grand merci pour ton soutien également. Salut Skyblue193, GTA 6, la dinguerie. Ça y est, tu nous parles du trailer qui est sorti en avance hier, qui a leaké. Salut Laurie de Retraite, salut Miaou Flora de nouveau, je te dis bonjour deux fois. Salut Samuel, salut Andy76, salut Caradoc, salut Olek, salut Laurie013, un grand merci également pour ton soutien. 22e mois, waouh, que des fidèles ce matin. Salut Sam Chasseau, salut Laetitia, salut Poppy21000, salut Manon, salut Eliave. Un grand merci également à Olek, waouh, 43e mois d'abonnement, là on n'est pas dans la même cour, hein. Clairement. Un grand merci à toi Olek pour ta fidélité et ton soutien chaque matin. Salut Apple Computer, salut Odyssey, très bizarre, je ne sais pas comment lire ton pseudo. Salut Camillette, salut Mécano. Salut Mademoiselle Sem, salut Briffon, salut Olivier SG, salut Cyril Bouche, salut Edgil71, salut Béoasbert, salut Pierroute, salut Déclic43, salut Polaire, salut Anaïs, salut Captain Booby, salut Papa Eiffel et salut The Garlic Snell. Ça fait trop plaisir de vous retrouver ce matin. J'espère que vous avez la forme, que vous êtes bien emmitouflés au chaud, soit au travail, soit encore chez vous pour le petit déjeuner. Nous, on est bien. Comme je vous disais, on est dans un joli cadre festif de Noël, au chaud. Donc, on est très bien pour commencer la journée. Et puis, on est d'autant plus bien parce qu'en fait, on a des articles très sympas. C'est vrai, tu as raison Yves, les températures remontent légèrement. Je m'en suis aperçue ce matin, tout à fait. Un grand merci à Xerox pour ton abonnement. Un grand, grand merci à toi pour ton soutien. Donc, je disais, on a des chouettes articles ce matin. On va parler un petit peu d'une rumeur, rien n'est confirmé, mais a priori, on a des signaux qui montreraient qu'Apple serait sur le point potentiellement d'abandonner le développement de son modem 5G qu'ils avaient prévu de faire maison pour les iPhones. Bonne, mauvaise nouvelle, on verra un petit peu, c'est mitigé évidemment. Surtout pour une boîte quand même qui se targue d'avoir une intégration très très forte hardware et software. C'est évident qu'ils avaient envie de faire leur propre modem, mais ils se sont heurtés à plusieurs difficultés, on en parlera tout à l'heure. On va parler également de Google qui eux aussi font face à des difficultés concernant leur projet qui était censé rivaliser avec ChatGPT, le projet Gemini ou Gemini, je ne sais pas comment vous préférez à la française ou à l'anglaise. Voilà, et qui fait face à des retards. Il devait être annoncé en décembre 2023 et ça devait être la grosse annonce de 2023. Voilà, l'intelligence artificielle est quelque chose de crédible pour entrer en compétition avec ChatGPT. Eh bien, a priori, les plans ont été un petit peu bousculés là aussi chez Google et ça serait repoussé à janvier 2024 d'après le média The Information. On détaillera un petit peu ce qu'on sait sur cette information, Ce sont principalement des rumeurs, donc toujours à prendre avec des pincettes. Ensuite, on parlera d'un projet de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est quoi hein? Pour rappel, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Voilà, et ils ont lancé la nouvelle plateforme Acropole, qui est une plateforme conçue pour faire découvrir les métiers de la cybersécurité. Donc, projet très sympa. Et encore, ça montre un petit peu l'attention du gouvernement français aussi sur la sécurité des systèmes d'information. Donc moi, je trouve ça vraiment, vraiment bienvenu. Il a l'air bien foutu, honnêtement. Voilà, je trouve ça très sympa, encore démocratiser et potentiellement, dévoiler des passions, sensibiliser à certains métiers qui sont vraiment très porteurs d'avenir à l'heure actuelle. Donc moi, je trouve ça très bien comme initiative. C'est pas la seule, on avait parlé de d'autres initiatives il y a quelques semaines. On va parler de ça aujourd'hui. Et puis on va parler également, donc ça c'est un portrait qui a été publié chez Uzbek Erika de Linda Yaccarino. Alors c'est qui Linda Yaccarino? J'espère que ça résonne un petit peu chez vous. C'est tout simplement la CEO de Twitter, Twitter, anciennement Twitter, aujourd'hui X, qui avait pris donc la tête de la société au préalable, qui était dirigée par Elon Musk. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Elon Musk n'est plus CEO de X, mais c'est en effet Linda Yaccarino. Donc on reviendra un petit peu sur son parcours, pourquoi elle a pris la tête du réseau social et quels sont un petit peu ses succès ou échecs depuis qu'elle a pris la tête du réseau social. Vous pourrez partager un petit peu aussi, évidemment, votre ressenti par rapport à ce qu'elle a fait depuis qu'elle a rejoint le réseau social. Mais en tout cas, j'ai trouvé le portrait d'Uzbek Erika intéressant. C'est vrai qu'on ne s'était pas, jusqu'ici, j'avais pas creusé sur son profil et d'où elle venait au niveau de sa carrière. Donc, je trouve ça intéressant qu'on prenne le temps de s'y intéresser. Un grand, grand merci à Xerox et CyberSimple pour vos abonnements ce matin et vos soutiens. Un grand, grand merci à vous. On sent que vous êtes motivés là ce matin, ça fait trop plaisir. Voilà pour cette news. Et évidemment, on parlera de la news de la journée. C'est Spotify qui annonce sa troisième vague de licenciements et la plus importante puisque ça représente 17% de ses effectifs. Donc, 1500 emplois, malheureusement, qui vont être supprimés de Spotify, malgré un contexte plutôt positif pour la plateforme de streaming musical, puisqu'ils ont annoncé des chiffres plutôt intéressants, notamment avec un bénéfice net de 65 millions d'euros. Donc, on pourrait se poser la question de pourquoi ils ont décidé de réduire leurs effectifs. On creusera ensemble tout à l'heure. Et puis, on continuera dans la musique et dans la musique sur TikTok avec l'arrivée de la possibilité d'acheter des tickets de concert directement depuis la plateforme de réseau social TikTok via un partenariat avec Ticketmaster. C'est un partenariat qui va être dévoilé dans plusieurs pays, dont la France, mais pas que, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Allemagne, au Canada, au Mexique, en Autriche, en Belgique, en République tchèque, Danemark, Finlande, Italie, Pays-Bas. Je suis obligée de reprendre mon souffle. Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Suisse, Espagne et Suède. Excusez-moi. Donc ça, nouvelle fonctionnalité qui arrive et c'est une fonctionnalité qui fait vraiment plutôt sens sur la plateforme, qui a toujours une relation très proche et particulière avec le milieu de la musique. On est en plein dedans la Conoc pour le programme du jour. Donc là, tu vois, on fait le sommaire justement. Et donc, on continue avec encore de la musique ce matin, trois articles de musique. Et cette fois-ci, on va s'intéresser au groupe Kiss, groupe emblématique de par sa carrière particulièrement longue et puis de par également la manière dont ils ont marqué la culture avec ce maquillage emblématique pour lequel ils sont connus. Désolée, j'ai eu un décès du calendrier de l'Avent et le bruit m'a fait peur. Il est tombé, c'est tout. Donc voilà, donc on va partir. Pourquoi on va parler du groupe Kiss ce matin, ce groupe de métal avec justement ce maquillage emblématique? Et ben tout simplement parce qu'ils ont donné leur dernier concert de leur carrière sous forme physique, sous forme réelle d'être humain, on va dire ça comme ça, au Madison Square Garden samedi soir. Mais ça ne sera pas la dernière performance du groupe. Là, vous allez me dire, je comprends pas. Si c'est la dernière performance de leur carrière en tant qu'être humain, pourquoi c'est pas leur dernier concert en tant que groupe? Bah, tout simplement parce qu'ils ont travaillé avec notamment la société de George Lucas Industrial Light and Magic pour créer des avatars en 3D. Enfin, je sais pas si c'est en 3D, enfin oui, enfin, des avatars quoi, virtuels, pour les recréer et recréer les quatre membres du groupe avec justement leur personnalité, leur manière de bouger, etc., pour pouvoir faire des concerts retransmis. Enfin, voilà, il y aura personne sur scène, mais ça sera des écrans géants avec donc ces quatre personnages virtuels qui vont faire une performance qui sera a priori unique à chaque concert. Donc ça, c'est assez intéressant. On en parlera en détail tout à l'heure. Voilà. Et puis si on a le temps, je vous parlerai peut-être d'un film qui est sorti la semaine dernière, mais comme je suis pas sûre d'avoir le temps, on verra. Voilà. Et le film, pourquoi je voulais en parler, je peux quand même vous dire le nom au cas où si j'ai pas le temps d'en parler tout à l'heure, c'est Dumb Money. Et en fait, ça va retracer l'affaire GameStop dont on avait pas mal parlé dans le mug, qui s'était déroulée en janvier 2021 à l'époque. Donc on en reparlera tout à l'heure de quoi il s'agit si on a le temps. Et puis je vous parlerai un petit peu du film. Voilà, moi je l'ai pas encore vu. Mais voilà, si vous avez envie d'aller voir un film au cinéma, ça peut être une bonne idée. Voilà, c'est la fin du sommaire. Je vous propose de passer au premier article ce matin et on va parler du coup d'Apple. Apple qui, a priori, s'est pris plusieurs coups durs concernant la conception de son modem maison 5G et qui est un petit peu en galère. Depuis 2019, le géant californien caresse un peu l'espoir de pouvoir justement un jour disposer de ses propres puces. On le sait, hein, il y a toujours cette attention chez Apple d'avoir vraiment une intégration complète aussi intégrée que possible entre le software et le hardware. Et donc, du coup, bah, ils avaient toujours ce rêve un peu de pouvoir concevoir leur propre puce pour le modem 5G. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, a priori, les plans initiaux anticipaient donc un déploiement à partir de l'année 2023. On est fin 2023 et on n'a aucune nouvelle, hein. Et donc, tout porte à croire que c'est mal parti, du coup, pour les plans d'Apple. Alors, si on revient un petit peu en arrière, en 2021, il faisait presque plus l'ombre d'un doute que l'iPhone 15 ou les iPhone 15 seraient les premiers smartphones d'Apple à justement profiter de leur propre puce 5G. De ce que nous savions à l'époque, Apple prévoyait d'équiper ses nouveaux fleurons de modem 5G fabriqués par TSMC. Avec une taille de gravure de 4 nanomètres. Deux ans plus tard, en fait, on n'a pas vraiment de nouvelles. Le modèle ne donnait quasiment plus de ses nouvelles. Qualcomm annonçait carrément de renouveler son partenariat avec Apple jusqu'en 2026. Et donc, en fait, sans vraiment en parler, Apple actait le retard pris du coup sur le développement de ses puces de modem 5G, puisque le partenariat allait courir jusqu'en 2026 au moins. Et donc du coup, là, ce qu'on a dernièrement, c'est d'après un rapport du Wall Street Journal, Apple serait de nouveau confronté à différents obstacles et aurait même plusieurs années de retard sur la meilleure puce mise au point par Qualcomm. Et du coup, en conséquence, les difficultés rencontrées lors de l'élaboration de ce fameux modem 5G auraient conduit Apple à revoir ses ambitions et potentiellement enterrer ce projet d'avoir leur propre puce dès 2023 ou 2024. Et qu'est-ce qu'on sait? En plus sur l'investissement, parce que l'investissement, il n'est quand même pas anodin, hein, ce qu'ils ont fait. Pour rappel, en 2019, Apple a quand même déboursé pas moins $1 milliard pour mettre la main sur les activités des modèles, des modems d'Intel. Donc en plus Ça, c'est en plus des sommes colossales déjà investies lors des 4 dernières années. Et donc, l'entreprise a mobilisé des milliers d'ingénieurs afin de parvenir à produire une puce à la hauteur de celles qui sont proposées par la concurrence. Malgré ça, ils n'ont pas forcément réussi. Donc ça, c'est ce que nous rapporte GSM Arena, les dernières tentatives d'intégration du modem 5G dans les prochains smartphones d'Apple. Ce serait une nouvelle fois soldé par un échec a priori, ce qui entraînerait du coup l'abandon définitif du projet. Je lis un petit peu vos commentaires. Un grand, grand merci Cyber Simple et Sébastien pour vos soutiens ce matin. Un grand merci à vous. Donc voilà, donc a priori, ça aurait entraîné encore ces nouvelles difficultés, ça aurait entraîné l'abandon définitif du projet. Alors, encore une fois, comme je vous disais, ça n'a pas été confirmé par Apple. Hein, c'est des informations qu'il faut prendre avec des pincettes. A priori, elles proviennent quand même de sources dignes de confiance. Le leaker Revegnus, qui a des antécédents assez fiable en termes de fuite Apple, et des sources provenant de la chaîne d'approvisionnement japonaise d'Apple qui corroborent également ces informations. Mais voilà, a priori, on pourrait dire adieu un petit peu à ce projet de modem 5G. Peut-être que finalement, quand le climat économique sera plus favorable, peut-être qu'Apple reprendra le travail sur le modem, mais a priori, c'est pas pour bientôt. Voilà. Donc comme ça, vous êtes au courant. Est-ce qu'ils ont résolu le problème avec l'iPhone 12 qui avait des soucis de surchauffe? Je ne sais pas, Camillette, ce n'est pas le sujet de l'article et je n'ai pas du tout d'infos là-dessus. Après, je sais qu'il y a toujours des histoires de surchauffe à chaque sortie d'iPhone et ça, c'est souvent lié aux mises à jour ou au transfert des données qui sort un peu dans le fond et qui réduit pas mal la batterie après jusqu'à provoquer la surchauffe quand même pas mais voilà donc j'ai pas de souvenir ouais de l'iPhone 12, ça commence à remonter un peu. Un grand merci Goons pour ton soutien ce matin, un grand merci à toi. 31 mois d'abonnement, c'est pas mal. Et puis, on va parler de Google. Après Apple, on parle de Google qui, eux aussi, font face à des difficultés, mais pas sur le même registre, puisque eux, ils font face à des difficultés concernant l'intelligence artificielle. Alors, on le sait, ils avaient déjà un sujet sur l'intelligence artificielle, puisqu'ils avaient sorti Bard. Voilà, c'était l'initiative la plus visible jusqu'ici de chez Google avec l'intelligence artificielle conversationnelle Bard, qui était vraiment un chat GPT-like, qui avait été dévoilé en début d'année. Il avait d'abord d'ailleurs à l'époque reposé sur le modèle de langage Lambda avant de basculer sur Palm, Pathway Language Model. Et Palm a fait ses débuts, pour rappel, au printemps 2023. Voilà, et le successeur Palm 2 est arrivé en mai 2023 avec justement la conférence Google I.O. Mais c'est pas fini puisque Google a un autre plan pour contrer le monopole un peu aujourd'hui de ChatGPT. Mais a priori, là, le problème auquel ils font face, c'est qu'il ne va pas sortir à la date de prévu. En tout cas, c'est ce que rapporte le média The Information ce matin, dans son édition du 2 décembre dernier. Et il cite notamment deux sources qui sont liées à l'entreprise américaine. D'après elle, une difficulté a surgi au dernier moment, obligeant la direction du groupe à retarder justement la présentation de ce nouveau projet Gemini, censé permettre à Google justement de défier ChatGPT. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus, ça serait la difficulté résiderait dans la capacité du modèle d'intelligence artificielle à répondre correctement à des requêtes dans d'autres langages que l'anglais. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui a été développé en interne par DeepMind, la filiale de Google spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et justement, comme je disais, elle aurait des difficultés à comprendre d'autres langues étrangères que l'anglais. Et donc, à l'origine, Google devait présenter son plan début décembre. Voilà, c'était censé être la grosse annonce de 2023. Si les dates s'étaient tenues, Gemini aurait été le produit le plus important de Google lancé en 2023. C'est ce qu'avance en tout cas The Information, pour signifier un peu le poids croissance de l'intelligence artificielle chez Google et dans la tech en général. Mais malheureusement, la firme de Mountain View viserait désormais plutôt le mois de janvier 2024, un délai qu'elle espère du coup suffisant ici pour revoir un peu les difficultés de Gemini concernant les autres langues étrangères que l'anglais. Les insuffisances de Gemini ont entraîné donc du coup, comme je disais, l'annulation carrément en chaîne de plusieurs événements. A priori, il n'y en avait pas qu'un, mais plusieurs événements qui lui étaient dédiés, y compris ceux de Sundar Pichai, donc le patron de Google ici. Et voilà. Et donc, on n'a pas plus d'informations aujourd'hui sur ce qui était prévu et qu'est-ce que comporterait Gemini. Mais clairement, il ne faut pas que Google se rate. Ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis en début d'année, en annonçant Bard et avec des démos qui étaient loin d'être convaincantes quand ils les avaient présentées. Donc là, je pense qu'il vaut mieux en effet reculer plutôt que de nouveau se reprendre un petit bad buzz là-dessus, quoi. Donc voilà. Pour rappel, Gemini est comparé à GPT-4 ou GPT-4, voilà, enfin GPT-4, voilà, à l'anglaise, ou GPT-4 en français. Et GPT-4, tout simplement, c'est le moteur de ChatGPT, hein. Voilà. Et donc le principe, c'est qu'il va s'entraîner et à apprendre sur un large corpus de textes, de ressources, etc., pour à la fois mieux comprendre le langage écrit et parlé, et à la fois pouvoir accumuler des connaissances sur certains sujets. Voilà, donc la qualité du moteur dépend un petit peu aussi de la qualité du corpus sur lequel il a été aussi entraîné. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui ChatGPT est quand même en tête hein, des solutions génératives et donc ça c'est une avance que OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, entend évidemment conserver. Et donc depuis ils ont carrément lancé GPT-4 Turbo au mois de novembre, et également le chantier en cours de GPT-5. Voilà, malgré les récents déboires, on va dire, ou on va dire la saga OpenAI avec le board et Sam Altman récemment. Voilà, ils continuent en tout cas sur leur lancée. Je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom. Un grand merci Guki Vaya pour ton soutien. Bonjour à tous, à toutes et à tous. 44 mois déjà, impressionnant. Un grand merci également à Goons21, à Kifouette et à Manimax pour vos soutiens. Vous êtes en feu ce matin là au niveau du soutien, ça fait trop plaisir. Un grand merci à vous. Ça fait chaud au cœur en ce mois de décembre quand on a froid. C'est la fin de l'année. On est fatigué et vous nous redonnez un coup de motivation à nous soutenir et à montrer combien le mug peut vous apporter durant la semaine. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Je regarde un peu vos commentaires. Donc, hop. Voilà, donc pas plus de remarques hein, sur cette information. En tout cas, la bonne nouvelle quand même à retenir dans cette histoire, c'est qu'a priori, janvier 2024, ça arrive très très vite. On est déjà début décembre 2023, donc en fait, d'ici un mois, on peut se dire un mois et demi, on risque d'avoir des nouvelles informations du coup ce fameux projet Gemini et ce que souhaite annoncer Google concernant l'intelligence artificielle. Donc voilà, pas encore très très longtemps à patienter, mais encore un petit peu. Et finalement, ça peut être aussi une bonne manière pour Google de commencer l'année 2024 sur les chapeaux de roue, quoi. Donc pourquoi pas. Voilà. Un grand merci Ricardo également pour ton soutien. Merci à toi. Voilà en tout cas pour cette nouvelle. Je vous propose de continuer et de parler du coup de l'ANSSI. L'ANSSI, donc organisme français, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Hein. C'est ça la signification de l'acronyme de l'ANSSI. Et qu'est-ce qu'ils ont lancé ? Ben, ils ont lancé une initiative vraiment bienvenue. C'est mon avis très personnel, mais je partage. Et donc en fait, ils ont lancé Acropole. Acropole, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle plateforme conçue pour faire découvrir les métiers de la cybersécurité. Donc ça, c'est encore une fois un secteur qui est en manque de profils, hein, qui recrute énormément. C'est un enjeu assez important et critique pour la protection des systèmes d'information. Et qui va avoir une importance croissante dans les années à venir, surtout quand on voit ici les menaces et les problèmes auxquels on fait face concernant les actions de hacking, etc., de piratage et compagnie. Et donc, du coup, il y a cette sensibilisation sur les métiers et les carrières en cybersécurité. Acropole intègre ici, donc, cette plateforme des épreuves issues du France Cybersecurity Challenge, qu'on appelle aussi FCSC, un concours national qui sélectionne les représentants français pour l'European Cybersecurity Challenge, qui oppose des jeunes Européens de 14 à 25 ans autour des défis de cybersécurité. Voilà, on voit vraiment que la cybersécurité, c'est vraiment un enjeu ici, vraiment très, très important. Et donc, c'est ouvert à tous, cette plateforme, et elle regroupe ainsi plus de 300 épreuves donc, de ce fameux France Cybersecurity Challenge. Ces épreuves sont progressivement débloquées tout au long du mois de décembre à la manière un peu d'un calendrier de l'Avent. Donc, c'est assez sympa. Et elles sont regroupées selon différentes thématiques. Donc, on a la thématique de crypto, donc analyse et résolution d'algorithmes cryptographiques. On a la thématique de forensics, jeu d'investigation pour découvrir des indices relatifs à des incidents numériques. On a le thème de hardware, exploration des vulnérabilités des appareils physiques. On a, alors je ne sais pas comment le prononcer, PWN, PWN ou PWN, donc des techniques de piratage des systèmes informatiques. Ça, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, puis alors je ne sais vraiment pas comment le prononcer. Il me manque des voyelles là dans l'histoire. Si vous avez de la phonétique, les gens dans la chatroom, pour ceux qui s'y connaissent, PWN, ok, c'est ça. Bon, je n'ai pas dit de bêtises, Kifouette me dit ça. Ok. Technique de piratage des systèmes informatiques. On a également le thème de reverse, analyse du fonctionnement des programmes binaires. On a web, là cette fois-ci c'est l'exploitation des vulnérabilités des applications web. Et on a ensuite miscellaneous, j'arrive jamais à prononcer ce mot, il est imprononçable, mais c'est un mot qui existe en anglais, hein, mais je n'arrive jamais à le prononcer. Et en fait, c'est la combinaison de différents savoir-faire. Donc là, c'est un peu genre la catégorie bonus, quoi. Voilà. Donc, vous avez pas mal de thèmes. Je trouve ça assez cool, hein, la manière dont c'est catégorisé. Et le principe, c'est en théorie, Acropole est conçu pour s'adapter à tous les niveaux, de débutants à experts. En pratique, quand même, les épreuves nécessitent quand même un minimum de connaissances en programmation ou en cybersécurité. Donc, vous êtes prévenus. Pour accéder à la plateforme, il suffit de vous rendre sur le site et explorer les épreuves. Elles sont organisées donc en 4 niveaux de difficulté et donc peuvent être aussi réalisées dans l'ordre de votre choix. Donc, vous n'êtes pas non plus complètement bloqué de faire des épreuves que faciles. Si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez faire des niveaux plus élevés aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la plateforme permet aussi la collaboration. Les utilisateurs peuvent partager leurs méthodes pour résoudre une épreuve. Et vous avez carrément les solutions qui sont proposées par la communauté qui sont mises ensuite à disposition. Donc moi, je trouve ça vraiment bienvenu. Il suffit en fait tout simplement de cliquer sur « J'ai cherché longtemps et je ne trouve pas le flag ». Et là, ça vous dévoilera du coup la méthode que la communauté a trouvée, ou là où les méthodes, hein, pour pouvoir résoudre l'épreuve. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et donc, du coup, il y a un côté un peu plus, ouvert, un peu moins compétitif ici sur le site d'Acropole pour générer peut-être dévoiler des vocations auprès de personnes qui sont intéressées sur le sujet et de s'y essayer par rapport au FCSC. Avec un environnement d'apprentissage un peu plus ouvert et un peu moins compétitif. En tout cas, c'est la volonté de l'ANSSI. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Ça me donne presque envie d'y aller. Je dis presque parce que franchement, j'y connais rien. Mais je serais un petit peu curieuse quand même d'essayer de voir si je peux mener l'enquête sur les épreuves les plus faciles pour voir si je peux tenter ma chance, quoi. Donc peut-être des choses rigolotes à faire durant les vacances. Pourquoi pas? Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresserait peut-être de tester un peu vos connaissances en termes de cybersécurité et d'essayer de voir si vous arrivez à résoudre ces épreuves? Il y a Samuel qui va regarder ça, ouais. Sab original aussi. Moses nous dit pas vraiment, je connais pas grand-chose. Mais ouais, mais justement, tu vois, tu peux voir si c'est adapté un peu à tous les niveaux. Alors, ils disent qu'il faut quand même avoir des bases, mais bon, les bases, c'est un grand mot, tu vois. Enfin, moi, j'ai des connaissances de base sur les principes de techniques de piratage, etc. Après, j'y connais pas grand-chose en termes de développement. Je connais le CSS, le HTML. Un tout petit peu React, mais je suis quand même assez limitée. Mais à voir, pourquoi pas. J'ai zéro base à part mettre mon mot de passe quand on me le demande. Je connais, je suis à peu près sur le même niveau. Hein. Néo 92 56 nous dit ça m'intéresse pour sensibiliser les personnes qui n'ont pas de base en IT dans ma boîte. Alors ça c'est intéressant Néo 92 56. Alors ça peut être peut-être un peu trop haut niveau pour ces personnes ce type d'épreuve, mais après t'as enfin nous par exemple dans ma boîte on a un espèce de bot Slack, un espèce de petit chatbot sur Slack qui va, je sais pas, une fois par mois, je sais pas si c'est une fois par mois, je me rappelle plus de la fréquence exacte, qui va te parler de cybersécurité et essayer de sensibiliser à des techniques de piratage pour que la prochaine fois, quand tu fais face à un potentiel piratage, ben, tu puisses plus facilement les reconnaître et te protéger. Ben, comme toute entreprise, on est ciblé par des tentatives de piratage et on a même carrément des fausses campagnes de piratage pour tester notre capacité à les reconnaître. Donc voilà, donc ça peut peut-être aider quoi. Il y en a quand même pas mal qui sont intéressés par le sujet, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Pax Megalenis, salut à toi. Camillette est intéressée, Flo645 aussi, Hippomony également. Et Apple Computer également. Voilà. Je suis super intéressée par la cybersécurité, mais je ne connais pas la programmation. Fissorem, franchement, je pense qu'il ne faut pas que tu te bloques à connaître la programmation, puis c'est un peu un grand mot. Tu peux y aller, je pense, au fur et à mesure, et peut-être voir les types d'épreuves qui t'intéressent le plus et qu'est-ce qui te manque en termes de connaissances pour pouvoir potentiellement te lancer sur le sujet et commencer quelque part comme ça. Hein. Tu as plein de tutos en ligne qui peuvent t'aider à te former si c'est vraiment un sujet qui t'intéresse. Donc c'est un peu la magie d'Internet aujourd'hui, c'est que quand on est intéressé par un sujet, bah finalement, voilà, j'allais dire, il suffit de prendre le temps, je dis ça, mais ce n'est pas forcément facile. Mais voilà, tu as un accès à la connaissance qui est quand même facilité. Voilà. Donc chouette initiative en tout cas de la part de l'ANSSI et on ne peut que saluer un petit peu d'essayer de faciliter les vocations et mettre à disposition ce genre d'outils. Moi, je trouve ça vraiment très très bienvenu. Et aujourd'hui, je voulais en profiter pour vous partager un article de Ouzbek Erika qui est en fait un portrait, un retour sur la carrière et le profil de Linda Yaccarino. Linda Yaccarino, petit rappel, c'est quand même la femme qui a pris la tête de X anciennement, Twitter. Donc c'est la CEO de Twitter X qui a quand même pour but d'influer sur la politique du réseau social et de définir une vision de ce réseau social suite à l'acquisition par Elon Musk, qui était anciennement le CEO. Et donc voilà, vous avez un article qui du coup fait un peu un retour sur son profil et sa carrière. Et donc c'est intéressant parce que moi je ne connaissais pas vraiment son parcours. Et du coup voilà, j'étais assez curieuse d'en savoir un peu plus. Et donc je vais vous la faire un peu courte, mais elle est diplômée en télécommunication de l'université d'État de Pennsylvanie. Elle est new-yorkaise, voilà. Et aujourd'hui elle est âgée de 59 ans. Elle a fait toute sa carrière dans les médias, d'abord au sein du groupe Turner Entertainment, où elle occupait le poste de vice-présidente exécutive et de directrice des opérations, Puis ensuite, elle est partie chez NBC Universal, dont elle a dirigé la branche publicitaire. C'est justement au sein de NBC Universal qu'elle s'est forgée une réputation de fine stratège et de fortiche de la pub. En 12 ans, elle a généré, avec les quelques 2000 employés quand même de son équipe, plus de 100 milliards de dollars de ventes publicitaires, étendu la portée de l'entreprise à l'échelle mondiale, lancé le premier service de streaming financé par la publicité et également diversifié les sources de revenus de NBC et décuplé les moyens technologiques de l'entreprise. Donc c'est quand même un sacré parcours au sein de NBC, clairement. Un parcours tel que carrément en 2020, elle s'est vue attribuer le Matrix Award, qui est une récompense pour les femmes de l'industrie de la communication. Et on a même Dan Ives, je sais pas comment prononcer, qui est un analyste financier du cabinet Wedbush Securities, qui s'exprimait à l'époque et il nous dit elle est une gourou très respectée de la publicité et peut aider à inverser une spirale négative. Quand il dit, parle de spirale négative, il parle évidemment de Twitter à l'époque. C'est un coup de maître en termes de recrutement pour X, ex-Twitter. C'est ce qu'il nous dit, en tout cas, au printemps dernier, auprès du Parisien. Voilà. Et donc, du coup, après 12 ans à officier au sein de NBC Universal, Linda Yaccarino a donc rejoint X-Twitter. Une décision qui aurait pu sembler peut-être étrange de par son parcours. Elle a été quand même assez éloignée de la Silicon Valley en tant que telle. Mais finalement, quand on y regarde un peu plus près, ben en fait, elle connaît très bien le monde des réseaux sociaux, notamment parce qu'elle a tout simplement quand même noué au fil du temps de multiples partenariats avec ses entreprises et notamment Twitter. À trois reprises, alors qu'elle travaillait encore chez NBC Universal, Linda Yaccarino a proposé à ses supérieurs de racheter Twitter à l'époque, sans que leur offre à 3 milliards de dollars n'aboutisse à l'époque. Elle a été chargée d'attirer les annonceurs et les publicitaires. Et donc ça, c'était sa mission quand elle a rejoint Twitter. Je vous rappelle que Twitter a fait face une chute des recettes publicitaires qui se sont littéralement effondrées depuis le rachat d'Elon Musk en octobre 2022. Et selon les informations même du New York Times, on a plus de 200 unités publicitaires d'entreprises telles que Airbnb, Amazon, Coca-Cola ou Microsoft qui ont interrompu ou envisagent de suspendre leurs dépenses publicitaires sur le réseau social en cause. Voilà, on peut rappeler évidemment la modération lapidaire de Twitter, le flot de contenus antisémites qui ne sont pas retirés de la plateforme en temps et en heure, ou assez rapidement en tout cas, et l'entreprise donc Twitter qui pourrait ainsi perdre jusqu'à 75 millions de dollars de recettes publicitaires d'ici la fin de l'année 2023. Donc on est sur un constat quand même particulièrement sévère en termes de stratégie publicitaire concernant la plateforme Twitter X. Et donc du coup, c'est pas forcément étonnant du coup que ce soit un profil tel que le profil de Linda Yaccarino qui était sélectionné pour reprendre la tête du réseau social pour mieux définir cette stratégie et réattirer donc les annonceurs et les publicitaires sur la plateforme. Alors aujourd'hui, le constat fait par Uzbek Erika, mais vous allez me dire ce que vous en pensez dans la chatroom, il est quand même loin d'être très très convaincant. Elle n'a pas vraiment réussi à consolider la place de X dans la galaxie des réseaux sociaux aujourd'hui, ni à influencer vraiment la vision d'Elon Musk sur l'avenir de la plateforme. On a un peu l'impression que Elon Musk en fait qu'à sa tête encore, et il va un peu à rebours des missions de Linda Yaccarino, il mise l'avenir du réseau social. Des fois, on a l'impression qu'il le fait plus sur les services payants que sur la publicité. Or, je pense que c'est assez illusoire de se dire que Twitter va rapidement s'affranchir de sa dépendance au modèle publicitaire en termes de revenus. Je pense que c'est peut-être plus une combinaison des deux qui pourrait aider Twitter à avancer et à être profitable. Ce constat génère du coup de la méfiance finalement. Et donc on a notamment... qu'est-ce que je peux vous dire? Un juge qui s'appelle Anton Susland, qui est un conseiller indépendant en investissement à Genève, qui s'est exprimé notamment sur le sujet dans la Tribune de Genève, Et il a mentionné, vu son manque d'expérience dans la tech, elle n'est clairement pas au bon endroit. Au bon endroit. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que vu les besoins de Twitter, je pense que le profil était intéressant. Le fait que de toute façon, elle avait dû collaborer avec les plateformes des réseaux sociaux, elle avait dû quand même monter en compétences sur les problématiques tech et réseaux sociaux. Donc bon, je suis pas tout à fait d'accord avec la citation, mais bon, voilà. Par contre, ce qu'il mentionne, c'est aussi quant à son titre de CEO, il est totalement fictif au vu de l'omniprésence d'Elon Musk. Et ça, malheureusement, c'est difficile de le voir autrement, quoi. Hein. Alors c'est vrai qu'en plus, elle s'est pris les pieds dans le tapis quand elle a parlé de la stratégie de Twitter lors de certains événements. Donc c'est vrai que ça a quand même pas mal impacter sa crédibilité sur la scène tech aussi. Et puis, c'est vrai que de par l'omniprésence des communications, impulsives, on va dire ça comme ça, d'Elon Musk, c'est très compliqué pour Linda Yaccarino de s'affirmer sur la scène tech et publique auprès de Twitter et d'affirmer un petit peu le fait qu'elle est CEO ici, quoi. On a plutôt l'impression qu'elle a un pantin à la tête de Twitter et que Elon Musk continue de faire ce qu'il veut, quoi. Ce qui est un petit peu dommage, quoi. Et donc, c'est vrai que le constat, il est un peu mitigé. Modération, sécurité en ligne, rayonnement auprès des annonceurs, bénéfices publicitaires. Voilà, les objectifs qu'elle s'était fixés aujourd'hui sont loin d'être atteints. Après, ils étaient difficiles, mais ils sont loin d'être atteints après 6 mois depuis son arrivée à la tête du réseau social. Elle a quand même réussi à signer un nouveau partenariat avec la société de sécurité des marques Integral AdSense, qui en fait a pour rôle d'assurer aux annonceurs que leur publicité n'apparaisse pas à côté de contenus douteux. Voilà, ça serait déjà ça. À côté de ça, on a quand même Elon Musk qui continue à changer pas mal de choses sur le réseau social, hein, à commencer par le système d'abonnement, le paiement des pastilles bleues et dorées qui certifient les comptes des utilisateurs, etc. Et du coup, Linda Yaccarino a quand même été très, très occupée, malheureusement, à atténuer l'image négative d'Elon Musk. Enfin bon, j'ai envie de dire qu'elle aurait des choses plus intéressantes à faire s'il était capable de se restreindre et d'agir en adulte. Mais a priori, comme il ne sait pas se tenir, elle en est réduite à faire ça, ce qui est quand même assez triste, quoi. Elle s'échine un peu à bonifier l'image d'Elon Musk, toujours critiquée, notamment donc, pour ses fameux messages antisémites postés sur X. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et du coup, c'est vrai que ça rend la position de Linda Yaccarino assez précaire, tellement précaire qu'on a carrément de nombreux annonceurs et consultants en marketing de premier plan qui essayent de la convaincre de démissionner de son poste et d'éviter de continuer un petit peu cette chute qui va impacter négativement potentiellement sa carrière. On a notamment Lou Pascalis, le fondateur et PDG du cabinet de conseil en marketing AJL Advisory, qui a mentionné « Le problème ne concerne plus les contiguïtés ou la modération du contenu, c'est simplement que le propriétaire de X n'est pas quelqu'un avec qui les spécialistes du marketing peuvent faire affaire. » Voilà. Et donc, il encourage carrément, il a même envoyé un message à Linda Yaccarino le 19 novembre dernier, l'exhortant à partir avant que sa réputation ne soit endommagée. Donc, on en est quand même à un point assez inquiétant, en tout cas pour Twitter, on le savait, mais également pour sa carrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de misogynie? Malheureusement, je pense que toute femme qui travaille dans la tech, mais pas que, hein, la tech n'est pas le seul milieu où on fait face à de la misogynie, les femmes sont plus facilement attaquées, critiquées. On le voit, hein, quand tu vois les moyennes de remarques des CEO qui sont des femmes par rapport à des CEO hommes avec des comportements similaires, les femmes seront pointées du doigt beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement que les hommes ou ce type de comportement agressif, irrespectueux, etc. sont vachement plus facilement acceptés. comme normal, comme partie des attraits masculins. Voilà, donc ça, y a de toute façon, il y a un biais inhérent ici qui pénalise les femmes, de toute façon. Mais la réalité est que quand même, on peut se poser quand même des questions sur ce qui se passe, que quand elle s'est exprimée, elle n'était pas très crédible sur la stratégie de Twitter. Donc bon, voilà, il ne faut pas non plus ignorer les signaux qu'on a. En tout cas, pour l'heure, il n'y a pas de signe que Linda Yaccarino souhaite vouloir quitter le navire de X Twitter, d'après Axios. À voir ce qui va se passer. En tout cas, elle a été quand même l'invitée principale de l'événement Code 2023 qui a été organisé par Vox Media en fin septembre. Et elle avait assuré à l'époque que X était sur le point d'atteindre le seuil de rentabilité et que 90% des 100 principaux annonceurs étaient revenus sur la plateforme. Quelque chose qui a fait polémique dans la mesure où c'est une affirmation en totale contradiction avec les informations du New York Times. Donc du coup, ça porte aussi un petit coup à la crédibilité ou la confiance qu'on peut lui apporter. A priori, elle n'est quand même pas prête à lâcher l'affaire. Hein. Elle a quand même embauché dernièrement son fils le 21 novembre dernier, donc tout récemment, pour l'aider à atteindre son objectif de 100 millions de dollars de revenus publicitaires. Donc est-ce que son fils va faire vraiment changer la donne? On va voir, mais en tout cas, elle a carrément impliqué la famille dans le business. Ce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, c'est les affinités politiques de Linda Yaccarino et Elon Musk. Alors certes, elle n'affiche pas forcément ses opinions politiques de manière très transparente, etc. Mais elle semble quand même partager avec Elon Musk un intérêt particulier pour la droite dure américaine. Elle suit notamment plusieurs comptes associés à l'extrême droite. Mais elle s'est quand même mis à dos une partie de cette frange politique, justement lorsqu'elle s'est montrée favorable à la vaccination contre le Covid-19. Donc voilà, à voir. Elle a quand même été retenue à l'époque comme... pour diriger un conseil présidentiel sur le sport et la nutrition en 2018, quand c'était l'administration Trump. On voit un petit peu de quel côté elle gravite politiquement parlant, quoi. Et quand même, pour voir un petit peu les sorties d'Elon Musk, je pense que ça serait difficile de soutenir ou de faire partie d'une société où le positionnement politique est tellement marqué qu'il en étouffe un autre côté politique. C'est l'impression que j'ai sur Twitter. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé le portrait de Uzbek Erika assez intéressant. Donc, je vous encourage à aller le lire si vous souhaitez creuser un peu plus. Ça donne, du coup, une lumière intéressante un peu sur justement pourquoi elle a été choisie en tant que CEO et en quoi elle était pertinente pour les besoins du développement de Twitter et de X. Je regarde un peu vos commentaires. La semaine dernière, Jérôme disait que selon lui, Musk veut détruire Twitter. Est-ce que tu es du même avis? Est-ce qu'il aurait à y gagner? Il aurait à y gagner s'il a plus aucune stratégie viable de remonter le réseau social et les performances du réseau social. Honnêtement, franchement, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre la stratégie de Twitter, enfin en tout cas d'Elon Musk, avec ses sorties intempestives, complètement immatures, qui ne font que heurter le réseau social. Alors, qui font que heurter, mais en même temps, tout le monde en parle et du coup, tout le monde parle de Twitter. Donc, on peut aussi se dire, tant qu'on parle de Twitter, Twitter n'est pas mort. Mais voilà, honnêtement, j'ai pas forcément le même avis que Jérôme sur cette notion de « il cherche à détruire Twitter », etc. Mais j'ai quand même une incompréhension sur la stratégie actuelle. C'est très difficile à suivre. Et moi, honnêtement, depuis que j'en suis partie, je suis sur Blue Sky, c'est pépère. T'as personne qui t'insulte quand tu postes. C'est respectueux. T'as pas de propos toxiques encore. Donc, franchement, ça fait des vacances, quoi. Voilà. Donc, pour ma santé mentale, j'ai quitté Twitter. Comme je vous disais, hein, depuis déjà quelques années, je n'osais même plus poster des tweets sur Twitter parce que j'avais peur de voilà, que ça se retourne contre moi, que je me fasse agresser sur Internet, etc. Et je trouve que du coup, c'est ultra toxique comme climat. Et donc, voilà. Il n'y a pas grand monde sur Blue Sky, ça aide, c'est clair. C'est clair. Blue Sky, c'est un réseau social qui copie grandement Twitter et qui a été lancé par justement un des fondateurs de Twitter. Voilà. Donc c'est ça, le glaude, c'est exactement ce que tu dis. Blue Sky, c'est comme ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. On verra quand il y aura plus de masse. Parce qu'évidemment, quand tout le monde est quelque part, ben, du coup, tu as à la fois les bons côtés, les mauvais côtés. Est-ce que du coup, ça résistera? Il faut voir. Donc à voir. Voilà, en tout cas, pour Linda Iaccarino. Je vous propose d'enchaîner sur la news du jour. La news du jour qui, malheureusement, n'est pas une bonne nouvelle. En tout cas, c'est Spotify. Spotify qui a pris, d'après Daniel Ek, hein, son fondateur et CEO, la décision difficile de se séparer de 17% de ses effectifs, soit environ 1500 emplois, 1500 salariés, pour réduire ses coûts et faire face au ralentissement spectaculaire de la croissance mondiale. Donc ça, c'est les mots de Daniel Ek dans une lettre à son équipe qu'il a partagée le 4 décembre dernier, donc hier lundi. Et donc ça, c'est partagé dans un contexte où on peut se dire, bah, c'est bizarre, les résultats quand même de Spotify les plus récents étaient positifs. Et Daniel Ek se dit être conscient qu'une réduction des effectifs de cette ampleur puisse paraître surprenante et incroyablement douloureuse pour l'équipe, alors que justement au troisième trimestre, Spotify quand même enregistrait un bénéfice net de 65 millions d'euros. Mais ça, c'est quand même grâce à la hausse, ce bénéfice net, il est grâce à la hausse des tarifs et du nombre de ses abonnés, et tout en réduisant déjà la voilure au cours de l'année qui s'est passée. Parce que pour rappel, c'est pas la première vague de licenciements auxquelles Spotify fait face, c'est la troisième, puisque tout simplement, il y en a eu quand même 600 postes de supprimés en janvier dernier et 200 postes en juin dernier. Et donc là, c'est carrément 1500. Donc là, quand même, la plus grosse vague de licenciements auxquels Spotify avait face. Et donc, en effet, Spotify accélère ses efforts pour atteindre la rentabilité. En tout cas, c'est ce que constate le Wall Street Journal. Et le directeur général a expliqué à son équipe que Spotify dépense encore trop d'argent aujourd'hui, malgré les efforts déployés pour réduire les coûts. Et donc, du coup... Comme je disais en introduction, dans le contexte de ralentissement de la croissance économique, qui est quand même très sévère à l'heure actuelle, de par le nombre de crises qui se multiplient, etc., et qui perdurent, et la hausse des taux d'intérêt, et ben du coup, ça pousse Spotify à couper les coûts de manière beaucoup plus sévère. Et donc, comme d'autres entreprises de la tech, bah, Spotify a largement recruté en faveur de la pandémie à l'époque. Hein. Ses effectifs, quand même, pour rappel, avaient presque doublé au cours des trois dernières années pour atteindre plus de 8000 salariés. Mais en fait, dans un contexte où le ralentissement économique et les investisseurs s'attachent plus à la rentabilité qu'à la croissance, et de nombreuses entreprises axées sur la diffusion en flux ont réduit radicalement les coûts, et ben, du coup, c'est logique que Spotify suive la tendance et du coup réduise la voilure et malheureusement le nombre d'employés. Donc en fait, là, c'est vraiment... Ils ont fait un pari, excusez-moi, hein, je suis encore un peu malade. Ils ont fait un pari durant la pandémie c'était extrêmement favorable dans le sens des services de streaming, des services de tech en ligne, etc. Et donc, ils ont fait un pari d'embaucher énormément et de tirer avantage de ce moment-là. Sauf qu'en fait, ils l'ont payé du moment où, en effet, le contexte économique a radicalement changé et en défaveur, du coup, des entreprises tech. Et donc, du coup, bah, on voit ce genre de coupes qui sont très, très, malheureusement, impressionnantes en termes de taille. Et du coup, ce qu'on voit aussi, c'est ce lundi matin, suite à l'annonce, le cours de Spotify a quand même bondi de 2,5% dans les échanges à Wall Street. Et donc, c'est vraiment un signe que les investisseurs ici sont sensibles à la cure d'austérité de Spotify et qui vont privilégier ici justement d'être plus frugal plutôt que de dépenser, etc. Voilà. Aussi, pour rappel, il y a aussi un secteur où Spotify a beaucoup, beaucoup investi. On en avait déjà parlé lors des précédentes coupes. C'est notamment diversifier son modèle économique avec l'arrivée des podcasts. Et ils avaient investi des milliards de dollars dans les podcasts. Et donc, depuis la deuxième vague de départ qui a touché justement la branche de podcasts, Spotify a quand même resserré durement ses investissements dans le secteur sur les séries audio originales. Donc, voilà. Alors, Jérôme nous dit, c'est un peu caricatural, mais la bourse adore aussi les embauches. Ce qu'aime la bourse, c'est les perspectives de croissance et licenciements ou embauches peuvent y contribuer selon les situations. Pourquoi là, les embauches, les licenciements ici sont hyper stratégiques? C'est que, on le voit notamment avec les échanges, les chiffres positifs au troisième trimestre. Les chiffres positifs au troisième trimestre sont aussi impactés largement par la réduction d'effectifs. Parce que du coup, c'est beaucoup moins de coûts, tout simplement. Donc, il y a ça aussi. Lorsque les temps sont durs, voir que la société est capable de prendre des décisions radicales pour limiter les coûts, c'est un signe plutôt positif, surtout qu'il y a peu de risques. Enfin, les investisseurs ont peu de doutes sur le business model de Spotify. Je veux dire, ça fait des années qu'ils existent, il est prouvé. Il faut ici trouver le bon équilibre pour être profitable, mais il y a peu de doutes ici sur Spotify fait partie des géants ici du streaming musical. Ils se sont fait une place à l'échelle mondiale. Donc du coup, c'est vrai que de voir que Spotify est capable de fonctionner avec moins d'employés, ça prouve qu'ils sont capables de grandir sans embaucher plus, sans augmenter les coûts. Et donc, du coup, en augmentant la marge. Et c'est ça que la bourse aime ici. Voilà. Et c'est ça, la bourse monte grâce aux perspectives de croissance ou d'augmentation de marge. Pas juste parce qu'il y a des embauches. S'ils n'ont pas un plan derrière ambitieux, ça ne va pas convaincre, en effet. Je suis d'accord avec toi, Caradoc. Donc voilà, en tout cas, pour Spotify. Dur coup quand même pour les employés. Grosse pensée, évidemment, à tous les employés de Spotify. C'est quand même difficile pour, évidemment, les personnes impactées directement. Difficile également pour ceux qui restent, parce que y a quand même un gros changement. Mais voilà, c'est pas étonnant, encore une fois, vu le climat économique. Alors, l'échec du streaming payant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Mimi Cacole, quand même. Je te trouve un peu sévère. On n'est pas ici sur un échec du streaming payant. On est sur un échec plutôt du podcast, du modèle, du business model du podcast qui est encore, on s'est un peu vite emballé, je pense. Et on n'a pas encore prouvé que ça fonctionnait concrètement. Mais le business model de Spotify fonctionne. Voilà. Il faut trouver l'équilibre, mais il fonctionne. Je vous propose de continuer avec encore une news musique ce matin. On va parler de TikTok. Bon, c'est une brève, parce qu'il n'y a pas 36 000 choses à dire dessus, mais tout simplement, TikTok, historiquement, c'est quand même un des réseaux sociaux qui a noué des relations avec la musique et l'industrie de la musique très tôt et très fort, puisque une grande partie des vidéos de la plateforme inclut justement des extraits de musique, et elle est devenue un excellent moyen de découvrir de nouveaux morceaux. Et donc, du coup, de manière très, très logique, TikTok à intégrer des services de streaming musicaux afin de permettre l'ajout des chansons découvertes sur le réseau social et notamment sur les playlists Spotify ou Amazon Music. Et donc là, ils continuent sur leur lancée puisque maintenant, les utilisateurs français de TikTok peuvent carrément acheter des tickets de concert depuis le réseau social grâce à un partenariat entre TikTok et Ticketmaster. Et ça, comme je vous disais en introduction de l'émission, c'est valable en France, mais pas que. C'est valable dans toute une catégorie de pays comme le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Australie, l'Allemagne, le Canada, le Mexique, l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, l'Italie, les Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Suisse, Espagne et Suède. Donc là, on a vraiment toute une panoplie de pays qui vont pouvoir bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité et de ce partenariat entre Ticketmaster et TikTok. Alors, quelle forme ça prend exactement? Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Bah, là, vous voyez tout simplement donc, le premier écran à gauche avec donc, une vidéo TikTok de manière la plus classique qu'on peut voir aujourd'hui sur le réseau social. La seule différence, c'est que vous voyez au-dessus de la description de la vidéo en bas, eh ben vous avez un petit bouton avec le logo Ticketmaster, Get Tickets for Niall Horan, qui est donc l'artiste de la vidéo. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous atterrissez sur justement l'événement disponible ou la tournée disponible pour cet artiste. Et là, vous allez pouvoir ensuite avoir une expérience en espèce de web view, parce qu'on voit qu'on est sur le site Ticketmaster ensuite, une expérience en webview pour pouvoir finaliser l'achat de ce ticket de concert. Donc voilà, moi je trouve ça bienvenu, c'est tout simple, ça paraît évident, mais du coup, bah, le fait que ça paraisse évident, ça le rend du coup ça montre combien l'opportunité est intéressante ici. Et du coup, la fonctionnalité est disponible pour les artistes qui sont certifiés sur TikTok, dans les pays où celle-ci est disponible, hein, évidemment. Et en tout, il y aurait pas mal de 75 000 artistes qui peuvent désormais profiter de ce partenariat entre TikTok et Ticketmaster. On a eu notamment, donc, comme je vous le montrais, Niall Horan en artiste, mais on a également The Cooks, Burna Boy, DJ Snake qui ont déjà utilisé la fonctionnalité. Donc on n'en est qu'au début, mais ça peut potentiellement aller plus facilement à la rencontre des fans pour bah, du coup les convaincre d'acheter une place de concert. Moi j'avoue que j'ai des applications qui sont dédiées qui plus traditionnellement sont synchronisées avec mes plateformes de streaming musical et qui vont du coup m'alerter quand j'ai des tickets pour ces artistes dans les villes où je suis qui sont mis en ligne. Et notamment j'ai les applications SongKick. Je crois que c'est celle que je préfère. Et Dice aussi, que j'ai. C'est les deux que j'utilise. Alors, ce qui est intéressant, c'est avec SongKick, je trouve, pourquoi j'aime bien cette application, c'est que du coup, je trouve qu'elle est plus réactive sur le délai de m'avertir d'un concert d'un artiste que j'aime, soit parce qu'elle a pu récupérer mieux ma... Je crois qu'elle est vraiment synchronisée avec ma plateforme de musique de streaming et pas forcément Dice. Il faut que vous alliez proactivement suivre les artistes, je crois. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais ce qui est intéressant sur Dice, c'est que vous pouvez carrément acheter les tickets directement sur Dice et les avoir dans l'application Dice. Donc ça, c'est assez pratique. Alors que sur SongKick, c'est juste, encore une fois, un lien vert. Mais bon, ça marche aussi, quoi. Donc du coup, voilà, moi, j'ai ces deux applications personnellement. Je n'utilise pas encore assez TikTok pour pouvoir vraiment y voir un intérêt, mais je trouve ça bienvenu, quoi. Tout ce genre de choses est bienvenu, je trouve. Et je trouve ça étonnant même que sur Apple TV, j'ai pas ça. Voilà. Pour moi, ça serait logique. Je sais que Spotify avait travaillé sur le sujet aussi. Donc voilà, en tout cas, pour cette nouvelle fonctionnalité disponible sur TikTok. Ben, je vois que la Glode aussi utilise SongKick. Oui, Caradoc est encore sur le sujet de Spotify. Parfois, ça licencie et manque de personnel. C'est un peu une solution à tout quand on ne sait pas quoi faire. Ouais, non, là, je pense que ce n'est pas le cas de Spotify. Hein. Et puis, il y a aussi l'image publique que ça renvoie. Qui est quand même pas génial. Donc, ils font pas ça en mode allez, on sait pas quoi faire, on va licencier. Mais voilà, non, je pense que c'est pas le cas ici, je pense pas. Mais c'est mon avis personnel. je ne suis pas dans les petits papiers de Spotify. Donc, en effet. Dernier article de musique ce matin que je voulais vous mentionner. Et c'est pour parler du dernier concert du groupe de métal Kiss. Kiss, c'est un groupe emblématique. Je vais quand même vous montrer parce que bon, tout le monde peut-être ne connaît pas, mais vous avez au moins vu le maquillage emblématique du groupe. On ne peut pas faire autrement quand même. Ouais, je vais faire cette photo-là pour vous montrer. Voilà. Donc voilà, vous connaissez quand même tous un petit peu ce type de maquillage. Eh ben, c'est le groupe Kiss qui l'a fait, qui a fait un petit peu ce mouvement, etc. Ils sont connus pour ça. Hop, c'est un groupe vraiment emblématique ici. Donc voilà, vous avez vu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, c'est un groupe qui tourne depuis maintenant des années. Hein, et ils ont fait, du coup, comme le mentionne voilà, Grohl, ben, ils font leur adieu à la scène. Ils ont donné leur dernier concert au Madison Square Garden, salle mythique, évidemment, samedi soir, donc 1er décembre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, tout simplement, à la fin du concert, eh ben, ils ont, après avoir joué donc, leur dernière chanson, ils ont quitté la scène. Et en fait, ils ont affiché sur les écrans une performance du titre God Gave Rock and Roll, God Gave Rock and Roll to You, qui est donc une chanson de Kiss. Et en fait, tout simplement, elle n'a pas été jouée ou performée par les membres du groupe en forme humaine, mais par des avatars du groupe. Et c'est pas une blague, hein. Et donc, suite à cette performance sur vidéo, il y a eu une annonce publique qui a été partagée qui mentionne une nouvelle ère pour Kiss. Et donc, en fait, ils expliquent que bah voilà, le show, ce concert marquait la fin de l'existence physique du groupe de Kiss, mais que maintenant, ils allaient rentrer dans le monde digital, numérique. En français, plutôt, c'est mieux numérique, dans le monde numérique. Et donc, du coup, ça, grâce justement à la création d'avatars de chaque membre du groupe Kiss pour pouvoir continuer à performer pendant des dizaines d'années futures. Et donc, du coup, ce qu'on sait, c'est que ces avatars des différents membres du groupe, des quatre membres du groupe, ont été créés par la société de George Lucas d'effets visuels Industrial Light and Magic, qui est extrêmement connu. Ça a été réalisé à travers la technologie de motion capture, qu'on connaît bien. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Gollum, notamment, avait été fait comme ça. Et donc, le groupe s'est prêté au jeu, justement, de la motion capture pour, justement, enregistrer leur posture, etc., leur expression et compagnie. Et donc, du coup, voilà, ils ont réalisé ces avatars. Les spectacles qui vont montrer ces avatars et qui vont abriter ces avatars vont être faits en partenariat avec Pop House Entertainment Group, qui est une société suédoise, pardon, qui est en fait derrière la production de ABBA Voyage, qui est à Londres. Voilà, donc qui est aussi une espèce de production virtuelle ici du groupe ABBA, a priori. Et donc, le groupe s'est exprimé à ce sujet. Et notamment, on a un des membres, Stanley, qui s'est exprimé en disant « Le groupe mérite de continuer à vivre parce que le groupe est plus grand que nous le sommes. » Donc là, c'est intéressant, c'est qu'il dissocie le groupe Kiss de sa propre personne d'être humain en disant bah, le groupe a marqué l'histoire, est entré dans l'histoire et il va continuer à accompagner l'histoire grâce à la technologie et à ses avatars numériques. Donc pour l'instant, on n'a pas d'annonce de spectacle par ces avatars, mais voilà, ça devrait arriver. Ce que je peux faire, c'est vous montrer peut-être un petit extrait de vidéo quand même, parce que ça vaut le coup. Alors, vous n'aurez pas le son, Mais là, vous voyez un peu la vidéo. Donc là, vous voyez l'écran principal où vous avez donc les quatre membres du groupe qui ont été recréés sous forme d'avatar. Et en plus, ils ont été recréés avec des espèces de pouvoirs. Donc, il y en a un qui a carrément des ailes démoniaques. Vous allez voir que leurs yeux, etc., s'illuminent et compagnie. Ils ont été faits légèrement plus jeunes qu'à l'heure actuelle, mais pas beaucoup plus, etc. Mais, et voilà, vous voyez ça. J'avance un petit peu dans la vidéo pour vous montrer différents extraits. Mais voilà à quoi ça peut ressembler un show de Kiss avec des avatars virtuels. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous tenterait? Alors là, peut-être pas ce groupe-là si vous n'êtes pas fan, mais est-ce qu'un groupe dont vous êtes super fan, qui n'existe soit plus voilà, qui a décidé de plus tourner, est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait dans la chatroom d'aller voir ce genre de concert? Ça m'intéresse. Dans ce cas, l'image par intelligence artificielle, c'est génial, les guitaristes sont six doigts. Non mais Olek, le troll, puissance 10 000. un show de Kiss dans Fortnite, ça, presque certain. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense que c'est encore trop nouveau pour définir exactement comment ça sera utilisé, mais pourquoi pas. C'est une idée intéressante. C'est bien fait, mais je préfère la réalité. Ouais, mais dans la mesure Flow 645, où le groupe part à la retraite, donc tu n'as plus aucune chance de les voir jouer sur scène. Mais le contexte est particulier, tu vois. Je pense que c'est important de remettre dans le contexte. À plus de 70 ans, peut-être que oui. Me déplacer dans une salle, non, autant le voir à la maison. Après, dans la salle, tu retrouves aussi l'émulation de la foule, tu vois. Moi, il y a ça que j'aime énormément dans les concerts. C'est vraiment ce fait d'être tous ensemble autour d'une passion, d'un groupe qu'on aime. Et il y a une espèce de communion, finalement. Ce n'est pas religieux, mais il y a cette espèce quand même de communion d'une foule autour d'un intérêt commun ou d'une passion commune. Aucun intérêt, il n'y aura pas l'ambiance. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous êtes très catégorique dans la chatroom. Il y a l'ambiance dans une salle, les effets spéciaux et tout. Oui, surtout ici, on a vu, voilà, ils ont carrément gardé les projections de flammes et compagnie, etc. Un autre extrait, peut-être, c'est que vous voyez, vous avez l'écran principal, mais vous avez aussi des espèces de toiles pendues près du public avec, vous voyez, les différents membres du groupe, les visages qui chantent, etc. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, il y a la scénographie qui va évoluer. Peut-être pour rendre les expériences encore plus innovantes, incroyables. Peut-être. Alors attendez, je vous dis ça, mais je ne vous ai pas partagé l'écran. Donc là, vous avez l'écran principal avec les quatre membres. Et puis après, vous voyez ici, vous avez des espèces de toiles qui pendent avec des espèces de plans différents de l'écran principal qui rendent l'expérience peut-être intéressante. Je ne sais pas. Moi, je peux vous partager mon avis personnel, mais j'y suis pas encore. Je pense que je pourrais me prêter à l'expérience pour un groupe dont je suis ultra fan et qui n'existe plus, potentiellement. Mais sinon, je préférerais carrément voir un enregistrement d'un vrai concert, d'un ancien concert. Avec les membres qui étaient sur scène. Et tant pis, c'est retransmis, mais je préférais à la rigueur peut-être voir ça que de voir une production virtuelle. Je ne sais pas. À voir. Peut-être que ça va évoluer dans le temps et qu'on changera d'avis. C'est comme les retransmissions de concerts au cinéma. Ben, je trouve que c'est moins bien. Enfin, mais je pense qu'encore une fois, ça variera des gens et peut-être que ça va s'améliorer. Mais là, j'ai trouvé, en tout cas, vous pouvez aller voir dans l'article, regarder les vidéos, j'ai trouvé les personnages assez maladroits. On voit que les cheveux ont du mal à bouger, qu'il y a toujours un délai, comme s'ils étaient dans l'eau. C'est très bizarre. ça fait pas réel, quoi. Mais après, je pense que c'est pas la volonté artistique de les avoir fait très réels. La preuve, ils leur ont donné des espèces de super pouvoirs, etc., des yeux flamboyants et compagnie. Mais voilà. Le dernier Pink Floyd de ciné, c'était super. Bon, voilà. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je dis, faut rester ouvert. Là-dessus, je vais pas avoir le temps de vous parler du film dont je voulais vous parler ce matin, mais je vous le mentionne quand même pour ceux qui se posaient la question. Je voulais vous parler Dumb Money. Dumb Money, c'est un film qui est Dumb Money. C'est un film qui est sorti mercredi dernier, le 29 novembre, et qui revient en fait sur l'affaire GameStop, une entreprise sur laquelle un YouTuber paria ses économies au point de faire trembler un peu Wall Street en janvier 2021. Il a entraîné toute une communauté avec lui pour investir sur ses stocks, alors que les hedge funds avaient parié sur la chute de cette action. Et donc du coup, ils ont perdu énormément d'argent au profit de ces petits investisseurs. Et d'ailleurs, Dumb Money, dans le jargon de Wall Street, c'est l'expression qui désigne les investissements boursiers des particuliers, qui sont forcément insignifiants comparés à des hedge funds. Mais du coup, voilà. Et donc, ça montre un peu le enfin, c'est un peu ironique, quoi, comme titre. Il y a quand même un casting assez prestigieux. Hein. Il y a Seth Rogen, Pete Davidson, il y a America Ferrera, etc. Donc, il y a pas mal d'acteurs très connus dans le film. Donc, vous avez l'article. Je le mets au cas où si j'ai oublié de le mettre dans Nowtech. Vous avez l'article dans le Flipboard de Nowtech. Et vous pourrez retrouver le trailer pour ceux qui sont intéressés et curieux. Mais voilà, je vais pas m'attarder dessus. Mais voilà, moi, j'étais un peu curieuse. Je sais pas si j'irai au cinéma le voir, mais je suis quand même assez curieuse de voir le film. Oui, évidemment, il y a Paul Dano. Merci, Fire Sloth, de le mentionner. Il y a Paul Dano. Moi, j'adore cet acteur. Voilà, donc il joue d'ailleurs le fameux YouTuber qui crée ce mouvement. Et qui, un mouvement qui est né sur Reddit aussi. Voilà, donc voilà. Si vous êtes curieux, allez-y. Il est 9h16, donc je vais vous souhaiter une excellente journée. C'était un plaisir de vous retrouver ce matin et de parler de tech ensemble. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Résistez bien au froid. N'oubliez pas de faire les emplettes de Noël avec des petits cadeaux pour vos proches, des petits gestes, etc. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et bon courage pour ce mois de décembre. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Juste avant de se quitter, on va voir si on fait un petit raid. Et on va faire un petit raid. Ça fait longtemps. On va faire un petit raid du côté de Pépipin. Voilà, ça fait longtemps, voilà. Donc on va faire un petit tour du côté dessin pour ce matin. Très bonne journée à tous, merci encore de m'avoir suivi ce matin. Rendez-vous jeudi en compagnie de Jérôme, jeudi et vendredi, puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye, ciao.